bienvenue sur notre antenne Fréquence Mistral dans ce quartier libre où je reçois avec plaisir Daniel Berthet, auteur de plusieurs livres solidaires, on peut le dire. Bonjour Daniel.
Bonjour Odile.
Alors aujourd'hui on va parler du tout nouveau-né 1851 Marianne des Mets et puis on va revenir évidemment sur vos précédents livres puisque vous écrivez depuis quelques années déjà, depuis le merveilleux moment de la retraite.
Oui, même avant, oui. Ça fait le sixième roman que j'édite.
Voilà, il y a eu « Il faut sauver le Saint-Esprit »,« Justice au point »,« L'anneau de Saint-Jérôme »,« Porteur de rêves » et « Au nom de notre bonne foi ». Et aujourd'hui, donc, 1851, Marianne des Mets, un livre, donc, on va rappeler le principe, c'est un livre qui est à la vente, évidemment, dont 5% sont reversés habituellement pour une association humanitaire. Et ouais. Aujourd'hui, vous avez choisi pour la replantation des oliviers en Palestine.
Tout à fait, oui. Oui, j'ai l'habitude, comme je suis auto-éditeur, j'ai l'habitude d'associer toutes mes publications avec une action solidaire. Je travaille donc avec une association, j'ai travaillé avec le Secours Populaire, j'ai travaillé avec le Téléthon, j'ai travaillé aussi avec une association qui s'occupait d'innocents injustement accusés. Et pour la deuxième fois, je travaille avec l'association France-Palestine, Solidarité, puisque je suis membre de cette association. Et donc, cette fois-ci, on va donner 5 euros par ouvrage vendu sur cette opération de replantation d'oliviers dont on parlera probablement tout à l'heure.
Voilà, on fera un saut aussi donc, pour parler de France-Palestine Solidarité 04, c'est ça, l'association oui. Dans le département. Et puis, on va reparler donc, de ce livre. Donc un livre, un roman, mais aussi bien sûr basé sur des faits réels.
Voilà, ça fait plusieurs romans que je base sur l'histoire de la région. Il y en a deux qui portaient sur les guerres de religion. Le premier, c'était l'anneau de Saint-Jérôme, qui se situait à la fin du XVIe siècle. Et puis le deuxième portait sur la foi, au nom de notre bonne foi, c'est-à-dire la guerre des religions entre protestants et catholiques. Et ça se basait aussi au XVIe siècle. Et cette fois-ci, j'ai changé d'époque. Je suis devenu un peu plus moderne puisque j'ai remonté dans le temps. Et je me suis intéressé au milieu du XIXe siècle à ce coup d'État du 2 décembre 1851 qui a provoqué une révolte assez importante dans les Basses-Alpes.
Alors, les résistants, la résistance, c'est quelque chose qui vous touche, ces faits historiques, ces révoltes vous êtes un justicier à votre façon.
Je ne suis pas un justicier, je suis peut-être un révolté.
Un révolté. Ouais.
Mais il y a un lien entre tous mes livres, c'est que chaque fois je parle d'injustice.
Voilà.
Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me motive dans mes écrits. Et donc, j'ai parlé de l'injustice faite à des innocents injustement accusés. J'ai parlé de l'injustice sociale entre les différentes communautés. J'ai pu parler aussi de l'injustice faite aux femmes à l'époque justement du XVIe siècle, lorsqu'on faisait des procès des sorcières. J'ai parlé aussi de l'injustice de la colonisation dans Porteur de rêves, lorsque je traitais de la guerre d'Algérie. Et puis aujourd'hui, je parle de l'injustice faite au peuple, puisque lorsqu'on fait un coup d'État, c'est antidémocratique et c'est bien entendu souvent contre le peuple. Et je tenais à rendre hommage au peuple des Basses-Alpes et du Var, c'est un peuple qui s'est révolté au moment du coup d'État du 2 décembre 1851.
Et alors ça demande évidemment des recherches. Pour être aussi dans le juste, vous avez été aux archives. Comment ça se passe?
Non, je passe pas tellement par les archives, puisqu'on a quand même un moyen moderne aujourd'hui, c'est Internet.
Et oui,
donc
sûr.
On a beaucoup de possibilités d'information sur Internet. Et puis je lis beaucoup de livres, et surtout de romans qui portent sur la période que j'étudie. Par exemple, pour ce livre, je me suis intéressé à Zola avec la fortune des Rougon-Macquart et puis toute la suite. Je me suis intéressé à des auteurs locaux aussi. Je les cite d'ailleurs. J'ai un livre qui m'a beaucoup plu C'est celui de Luc Villette qui s'appelle « Et la montagne fleurira », qui retrace justement cette révolte paysanne dans les Basses-Alpes. Et puis d'autres livres. Et bien entendu, je cherche l'inspiration au travers de ces livres. Et puis je me mets à écrire. C'est une aventure. Depuis la première page jusqu'à la dernière, j'ai un léger fil conducteur. Et puis j'essaie de faire vivre mes personnages imaginaires au milieu de la réalité de l'époque.
Comment vous faites ? Vous faites un plan avec les personnages qui vont apparaître, le nombre de personnages ?
J'ai pas de plan au départ. C'est vraiment une aventure. J'ai juste un fil directeur. Je sais à peu près où je vais partir. Je sais à peu près où je vais arriver. Et entre les deux, c'est l'aventure. Et c'est ça qui est formidable dans l'écriture, c'est que on crée des personnages. Au départ, c'est très schématique. Et puis, petit à petit, ils prennent de l'importance, ils prennent du caractère. Et puis, c'est eux qui nous entraînent dans les aventures qu'ils peuvent rencontrer à l'époque où on les fait vivre.
Alors, par exemple, dans ce livre, 1851, Marianne Démée, quels sont les personnages que vous avez choisis ?
Alors, le premier personnage qui fait le titre, c'est Marianne. Alors Marianne, c'est une vieille paysanne des Basses-Alpes, originaire des Mets, justement, et qui va être le symbole de cette révolte. Et puis ensuite, j'ai rencontré son fils, qui s'appelle Antoine, qui va se retrouver comme un accusé d'un crime qu'il n'a pas commis avec son camarade. Et puis d'autres personnages qui viennent au fur et à mesure. Je pense au conducteur de la diligence, Patoureau, qui est formidable dans ce livre. Je pense à d'autres personnages qui vont venir. Il y a le notaire Chabrac qui apparaît d'un seul coup. Il y a d'autres personnages. Tout ça, ça me permet de décrire la vie dans les Basses-Alpes, et particulièrement à Digne, au milieu du 19e siècle. Alors je suis obligé ensuite d'étoffer mon roman avec des descriptions de la vie de cette époque-là.
Alors, est-ce que vous avez des retours des personnes qui ont lu vos livres, que ce soit celui-ci, puisque vous m'avez parlé d'une personne qui l'a lu en une soirée. Quels sont les retours ?
Forcément, j'ai un tout petit lectorat parce que je diffuse moi-même les livres, donc je ne peux pas diffuser à travers le système de distribution traditionnel des librairies. Donc ce lectorat, je le connais et j'ai des gens qui m'achètent régulièrement mes livres et qui, dans l'ensemble, bon, j'espère que ce n'est pas que par politesse, mais qui sont assez contents de mon écriture et puis des aventures dans lesquelles je les entraîne.
Oui, il y a un style quand même, il y a beaucoup de vocabulaire, c'est très riche. Et vous êtes quand même au départ un comptable, un expert comptable. Et l'écriture, donc le sens littéraire n'a pas d'incompatibilité avec la comptabilité.
Pour être très clair, effectivement, dans ma vie professionnelle, j'étais beaucoup plus porté sur les chiffres que sur les lettres. Et je ne pensais pas qu'un jour je reviendrais aux lettres. Ça s'est fait par le hasard des événements dans la vie. Et c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé que je pouvais écrire des romans, mais j'ai rencontré quelqu'un dans la lecture, c'est Pierre Magnan, qu'on connaît bien ici, et qui a justement un style très riche, un vocabulaire extraordinaire, et j'ai été émerveillé par son vocabulaire. Sur chaque livre que j'ai lu de Pierre Magnan, je notais toutes les expressions qu'il pouvait apporter que je ne connaissais pas. Et puis, c'est vrai que je les réutilise un petit peu dans mes ouvrages et ça me guide. C'est important de sentir que je peux placer quelques mots qui sont un petit peu différents du langage courant. Alors, ça plaît pas à tous les lecteurs, parce que c'est vrai que des fois, on me l'a dit d'ailleurs pour l'anneau de Saint-Jérôme, il y a des mots qu'on ne comprend pas toujours.
Et il faut se munir d'un dictionnaire, parfois. Ouais.
Parfois, il faut se munir d'un dictionnaire, mais je vérifie chaque fois que ça existe dans le dictionnaire. Mm-hmm. Et alors, on m'a dit, il faudrait peut-être faire un lexique à la fin du livre. J'ai hésité et puis je l'ai pas fait.
Ça devient compliqué.
Oui, après, il faut que chaque lecteur aille chercher quelques fois, il passe et puis il comprend le sens. C'est ça qui est essentiel. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup avoir un style assez riche en vocabulaire. Je trouve que ça fait partie de la recherche et de la création du livre.
Alors, est-ce que vous l'avez rencontré, Pierre Magnan, pour de vrai?
Ah non, j'ai pas eu cette chance. Non, je pense, je vois que là, il y a un livre de Jacques Meurant sur le
qu'il a rencontré.
Qu'il a rencontré, ouais. Qui était quand même aussi un très grand admirateur de Pierre Magnan. Mm-hmm. J'ai pas eu cette chance, non. Et puis, je l'ai découvert assez tard. Pierre Magnan, parce que j'avais lu Pierre Magnan il y a une vingtaine d'années, mais comme j'étais dans les chiffres, son style ne me plaisait pas du tout. Et après, je l'ai redécouvert quand j'ai commencé à écrire. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était un puits. C'était formidable ce qu'il y avait dans ses livres. Donc je pense que Jacques Meurant serait bien mieux placé que moi pour en parler de Pierre Magnan.
Donc ce coup d'État du 2 décembre 1851, la révolte des Basses-Alpes, il vient de paraître. On peut se le procurer, bien sûr, en allant sur votre site, danielberthier.com.
C'est ça, oui.
C'est vendu à 16,50 €, dont 5 € sera reversé pour France-Palestine Solidarité. Est-ce que vous avez envie de nous lire un extrait de ce livre?
J'ai du mal à lire un
oui.
extrait. Non, je ne suis pas un bon lecteur de mes ouvrages. Donc je préfère laisser le lecteur le découvrir.
Et vous faites faire les préfaces toujours par Patrice Saunier.
Oui,
c'est une habitude.
La dernière fois, pour au nom de notre bonne foi, j'ai pas soumis le livre à Patrice parce que je savais qu'il était très occupé avec la sortie de son travail sur Rimbaud. Et il a été un petit peu vexé. Il m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas fait lire pour que je fasse une préface? Donc cette fois-ci, je me suis fait plaisir de faire lire le livre à Patrice et qu'il fasse une préface.
Est-ce que vous voulez que je lise la préface ou...
Voilà, oui. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui lise plutôt que moi.
Mais la préface, ça vous va?
Ou
un extrait?
Eh bien, on peut choisir la découverte de Marianne dans le premier chapitre, justement, pour expliquer. C'est à la page 16,
oui.
À partir de... C'était en cette année 1850.
Voilà. Alors, je lis cet extrait de votre livre 1851, Marianne d'Aimé, de Daniel Berthier. C'était, en cette année 1850, un début de matinée du mois de mai, promettant une journée de grande chaleur dans l'azur du ciel de Provence. C'était l'heure où l'on attendait, au pas de Marie, la diligence qui assurait la liaison entre Manosque et Digne. Il n'y avait que deux paysans encombrés de leurs besaces pour profiter des services de la patache. Protégés du soleil par la frondaison de trois châtaigniers centenaires, bercés par les stridulations des cigales, paupières baissant la garde, moustaches en bataille, sous-quenilles à la couleur terreuse, chapeaux de feutre transpirant les travaux des champs et jambes pendantes sur le visage gravé de la Vierge, les deux compères lézardaient en branlant du chef, assis sur le rocher de l'apparition. « Oh, fan de Chirchoul !» s'éclama subitement le père Laburlière, le plus vieux des deux compagnons. « Voy, regardez-moi qui vient » ajoute-t-il en tapant du poing sur l'épaule de son acolyte pour le sortir de sa léthargie. Après une longue hésitation liée à sa vue défaillante, le Jules Saint-Four souleva son feutre et se passa machinalement la main sur le crâne avant de répondre. « Oy, fan de pute, de tout sûr, c'est la Marianne, mais elle est increvable !» Devant eux, à quelques centaines de cannes, s'avançait lentement un semblant de vagabonde qui avait peine à se mouvoir. Du rocher de la Vierge, on apercevait son baluchon brandi au-dessus de sa tête. « Voy, elle est prête à tout pour ne pas rater la foire de l'empereur de Malijai !» reprit le premier. Un corbeau croissa au loin. Voilà donc un extrait du premier chapitre de 1851, Marianne d'Aimé.
Les quelques mots en patois sont pris justement des livres de Pierre Magnan.
D'accord. Ouais.
Voilà. Et tout au long, on va découvrir donc dans la suite, on va découvrir Marianne, on va découvrir la foire de l'empereur à Maligé, puisque Maligé fête le retour de l'empereur Napoléon Ier qui est passé en 1815. Et donc pour son retour d'exil. Et donc j'imagine que chaque année, comme on le fait d'ailleurs maintenant, eh bien on fête le passage de l'empereur à Maligé. Donc ça nous donne l'occasion de trouver d'autres personnages, et cette fois-ci des personnages qui ont réellement existé, puisqu'on va rencontrer celui qu'on appelle André Ayot, qui est le meneur dans cette révolte et qui est en train d'haranguer la foule pour essayer de la faire se soulever contre la réforme du suffrage universel. Parce qu'il faut peut-être resituer sur le plan historique ce roman. En 1848, on avait renversé la monarchie, on a créé la Deuxième République. En 1848, au mois de décembre, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui a été élu président de la République avec une très grosse majorité des voix. Et puis, je crois que c'est en 1848 ou en 1849, on a créé le suffrage universel. Donc, tous les hommes avaient le droit de voter. Bien entendu, on n'en était pas encore à faire voter les femmes à cette époque-là, puisque c'est le vote des femmes n'est arrivé qu'en 1945.
Très tard,
donc,
oui.
Très tard. En 1848 ou 1849, le suffrage universel était acquis. Et en 1850, on a voulu supprimer ou réduire le suffrage universel, c'est-à-dire qu'on a supprimé le droit de vote à tous les gens qui n'avaient pas un domicile fixe. Or, à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui passaient d'un village à l'autre pour travailler et qui n'avaient pas de domicile fixe. Donc, on avait à peu près la suppression d'un tiers des électeurs dans cette nouvelle réforme. Et la révolte a commencé un petit peu avec cette opposition du peuple vis-à-vis de cette réforme du suffrage universel. Et on est donc au début du roman, on est en mai 1850. Et on veut déjà se révolter contre cette réforme du suffrage universel. Et puis, dans la constitution de la Deuxième République, on avait prévu que le président de la République ne pouvait pas se représenter une deuxième fois. Il était élu pour 4 ans, mais ensuite il devait sortir. Or, Louis-Napoléon Bonaparte voulait rester président de la République. Et il lui était difficile de changer la constitution. Il a essayé de le faire, mais il n'y est pas arrivé. Et il a préparé un coup d'État, le coup d'État du 2 décembre 1851, pour se défaire du vote du suffrage universel et prendre le pouvoir. Et c'est de là que est venue cette révolte des paysans des Basses-Alpes contre ce coup d'État du 2 décembre. Puisque ce coup d'État du 2 décembre, bien entendu, il y a eu de la révolte au niveau de Paris en premier, mais cette révolte a été réprimée très sévèrement et Paris s'est couché un petit peu devant le coup d'État et il restait plus que les provinces et en particulier les Basses-Alpes. Voilà un petit peu pour situer historiquement le roman.
Et géographiquement, on passe à Digne, Manosque, Thouars.
Voilà,
content toujours de retrouver des villes qu'on connaît, des villages qu'on connaît.
Voilà. Bien sûr, ça me faisait extrêmement plaisir en même temps de faire découvrir au lecteur la situation économique, sociale de Digne au milieu du 19e siècle. Donc, j'en suis arrivé à parler du nouveau boulevard, qui est actuellement le boulevard Gassendi, qui venait d'être fait, puisque avant, c'était un chemin qui passait derrière le Mardaric. Et on a créé, à ce moment-là, dans les années 20 ou 30, 1820 ou 1830, on a créé le boulevard qui s'appelle maintenant boulevard Gassendi. On a... je parle de la statue de Gassendi qui existait déjà à l'époque. Je parle, par exemple, de la glacière.
Oui.
Ça existe toujours à Digne. Eh bien, bon, moi, je l'ai transformée parce que ça, c'était pour garder de la glace pour la vendre l'été. Mmh. Moi, je l'ai transformée en prison pour donner un petit peu du relief au roman. Je parle des termes.
Oui.
Je parle beaucoup des termes. J'ai un chapitre très intéressant sur les termes à l'époque. Et puis, je parle aussi de la Grande Fontaine qui existait déjà. Je parle du cimetière du Bourg, etc.
Donc, c'est très intéressant et historiquement et en même temps pour les gens d'ici. C'est toujours sympa.
Je pense que les lecteurs d'ici, qui connaissent Digne, qui connaissent Lémé, qui connaissent Maligé, se feront plaisir en lisant ce livre parce qu'ils vont vraiment plonger dans le passé avec des descriptions qui sont quelquefois très, très marrantes.
Et il faut aller voir le directeur des thermes. Ouais, c'est... Et alors, vous écrivez depuis quelques années, vous êtes passionné par l'écriture et vous faites plaisir à vos lecteurs. Mais est-ce que ce serait un rêve pour vous bon, d'être lu peut-être beaucoup plus, mais aussi qu'un jour quelqu'un décide de porter à l'écran l'un de vos livres, hein?
Ah, ce serait formidable, oui.
Hein, ça pourrait être dans la suite logique de...
Patrice Saunier, dans ses préfaces, dit toujours que j'ai un style très cinématographique. Oui. Et donc, vraiment, ce serait le comble, là, bien sûr, du bonheur. Mm-hmm. Mais je ne pense pas que ça arrive avec la petite édition que j'ai.
Et pourquoi
pas. Soyons modestes.
Bon, est-ce qu'on écoute une chanson?
Ah oui, bien, on peut écouter la chanson de Georges Moustaki qui s'appelle « Sans la nommer » et qui fait fond musical du clip vidéo que j'ai fait sur le livre et qu'on peut aller chercher sur YouTube en tapant 1851 Marianne Démé.
Alors, on va l'écouter tout de suite. Donc, « Sans la nommer » de Georges Moustaki.
Mais chanté par une personne...
Pardon.
Différente.
Alors, on va chanter par quelqu'un d'autre que Moustaki.
C'est quelqu'un qui l'a chanté au moment d'un congrès CGT, pour être précis. Mais je ne connais pas le nom de la personne.
D'accord. Eh bien, ceux qui nous écoutent, aux recherches, on écoute.
Vous parlez d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, aux fruits sauvages. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui s'ouvre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer,
sans la nommer, cette magnifique chanson de Georges Moustaki, chantée par une femme qui le chante très très bien aussi. Donc on peut retrouver cette chanson, bien sûr, sur 1851 Marianne Démé sur YouTube. Daniel Berthet, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce dernier roman ?
Eh bien, que quand on écrit un roman, on est plongé dans l'histoire pendant 18 mois à peu près. Et quand on en sort, on se demande ce qu'on va faire après. On est un petit peu perdu, on n'a pas tellement envie d'en sortir. Et puis, il faut quand même en sortir, il faut sortir le livre. Et après, on se demande sur quoi on pourra bien écrire. On a l'impression qu'il y a un vide. Alors, je ne sais pas les autres auteurs comment ils font. Mais moi, pour le moment, je ne sais pas ce que je ferai comme écriture pour le prochain roman.
Là, vous avez achevé l'écriture. À quel moment ?
Au mois de février ou mars à peu près, et je l'ai publié tout de suite. Alors, je m'appelle toujours artisan romancier, j'aime pas du tout le terme,
écrivain,
le qualificatif écrivain, parce que bon, c'est quelque chose de professionnel, je sais très bien que je suis un amateur, et je suis toujours impatient de voir le livre. Donc je n'arrive pas à envoyer le livre à des maisons d'édition et puis attendre 4 ou 5 mois et ne pas avoir de réponse au bout de 4 ou 5 mois. J'ai l'impression d'un certain mépris, d'une hauteur de vue des maisons d'édition. Donc, je n'envoie pas le livre à des maisons d'édition et je me fais plaisir à faire moi-même la couverture, à trouver l'imprimeur qui commence à me connaître maintenant puisque je suis fidèle. Et puis ensuite, à faire la diffusion moi-même à travers mon réseau et à connaître un petit peu mes lecteurs sans avoir de grandes prétentions au niveau de la diffusion. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on rate beaucoup de choses au niveau de la diffusion, mais être en attente d'un éditeur, comme je suis un homme de chiffres, lorsque je regarde les statistiques et lorsqu'on ne connaît personne dans un comité de lecture, on a à peu près 1% de chance d'être lu. Et pas d'être retenu, d'être lu, parce que je pense que la plupart du temps, les manuscrits qui arrivent, on en lit une page et puis on le jette après. Donc je me dis, c'est inutile. Je préfère faire le travail que j'ai envie de faire de manière tout à fait libre et puis de garder cette indépendance. Voilà.
Bon, eh bien, donc de toute façon, pour l'instant, et vous n'avez pas encore tout vendu, il y a encore des livres qu'on peut trouver donc, en s'adressant à vous sur votre site. Est-ce qu'on parle de France-Palestine Solidarité ?
Oui, je voudrais dire pourquoi je suis motivé. C'est parce qu'effectivement, en étant un amateur dans l'écriture, je trouve un peu prétentieux d'aller voir les gens et puis de leur dire « achetez-moi le livre ». J'ai toujours aimé accompagner les ventes d'une action de solidarité en leur disant « bon, mais c'est vrai que peut-être vous allez acheter le livre d'un amateur, mais au moins vous ferez une action de solidarité en même temps. » Alors ça peut être pour le Secours Populaire, ça peut être pour France-Palestine Solidarité, pour Téléthon. Mais ça me fait beaucoup plaisir. Je trouve que ça me motive pour aller voir les gens. Et à chaque fois... C'est à peu près un don de 300, 400, 500 euros que je fais. Donc, c'est pas grand chose, mais c'est un geste qui me plaît. Cette action de solidarité.
Et c'est tout à votre honneur et c'est très bien. est-ce qu'on écoute La Commune ?
Ah, ben oui, de Jean Ferrat. Sur le livre, et puis ensuite on parlera de France-Palestine.
Oui, voilà. Allez, on écoute La Commune.
Alors, je dirais pourquoi La Commune après.
Oui.
Il y a 100 ans, commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune, en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune. En écoutant chanter Clément, c'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot, pour défendre Paris. Ils se firent mobiles, c'étaient des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme un commune, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme ouvriers, artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Jean Ferrat, comme un commune, la commune. Oui. Pourquoi cette chanson, alors, Daniel Berthier ?
Alors, c'est une chanson qu'il a écrite en 1971. Il le dit dans la chanson. Il y a 100 ans, il y avait la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, c'était donc en 1871. Et ça marque un petit peu la fin, justement, du Second Empire, sur lequel, moi, je travaille, mais au début, avec le coup d'État. Et ce Second Empire a duré une 20aine d'années, donc jusqu'en 1870, de 1851 à 1870. Ça s'est terminé un petit peu en catastrophe, puisque la France a perdu une bataille à Sedan en 1870 contre la Prusse. Et donc les Prussiens sont venus d'abord ils ont fait prisonnier Louis-Napoléon Bonaparte après 19 ans à peu près de règne, et ils ont fait prisonnier, et la Troisième République est née ensuite vers la fin de 1870, si je ne me trompe pas, je ne suis pas historien. Et les Prussiens ont fait le siège de Paris en 1871, et la Commune de Paris, c'est-à-dire le peuple de Paris, s'est révolté et a fait ce qu'on appelle aujourd'hui la Commune de Paris, c'est-à-dire qu'il y a eu une auto-organisation à l'intérieur de Paris, par le peuple. Et bien entendu, cette commune a été réprimée aussi dans le sang. Et j'aime beaucoup le lien, parce que moi, je parle du début du Second Empire. La commune parle de la fin du Second Empire. Et c'est toujours une révolte populaire. Et ce que André Aillaud avait voulu faire sur Digne, c'était justement déjà une forme de république populaire qui soit guidé par le peuple. Et c'est ce qu'on retrouve aussi en 1871 dans la Commune. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les révoltes populaires. Il suffit de prendre actuellement ce qu'on a vu l'année dernière avec les Nuits debout. C'est un peu un mouvement populaire qui voudrait prendre en charge sa propre direction, son propre avenir. Hélas, on le voit à chaque fois... ça disparaît, parce que le pouvoir capitaliste est quand même beaucoup plus fort, et la répression se fait sentir à un moment ou à un autre. Si on ne rentre pas dans le rang, c'est la répression. D'ailleurs, j'ajoute que en 1851, on n'en a pas parlé, mais la révolte des Basses-Alpes s'est terminée de manière tragique pour beaucoup des révoltés, les vrais, hein, je ne parle pas de ceux de mon roman. Et par exemple, André Aillaud a terminé au bagne à Cayenne, et il est mort quelques années plus tard d'une maladie infectieuse, je ne sais plus si c'était le choléra ou autre chose, à Cayenne. Et la plupart aussi se sont exilés ailleurs, ou alors ont été pris, emprisonnés, ont fait des années de prison, ou ont été envoyés au bagne. Donc tout ce qui est révolte populaire, souvent ça signifie des répressions importantes après. Donc rendons hommage à tous ces gens qui ont le courage de lever le poing. Voilà.
Merci Daniel Verté.
Alors,
on va passer à France-Palestine Solidarité, donc une association qui existe depuis quelques années déjà.
2002. Au niveau local. Mm-hmm.
Et donc vous êtes membre de cette association qui a pour objectif...
Voilà, alors c'est une association qui se veut solidaire du peuple palestinien, puisque je pense que chacun sait que le peuple palestinien est un peuple opprimé depuis la création de l'État d'Israël. Alors je ne vais pas revenir sur l'existence de l'État d'Israël que tout le monde reconnaît, mais par contre, on est dans une répression qui augmente chaque année, une oppression qui se traduit par une colonisation de plus en plus importante, qui fait que l'État palestinien n'existe toujours pas. Depuis 1848. Et nous, Association France-Palestine Solidarité, nous sommes solidaires de ce peuple palestinien pour faire connaître la culture palestinienne, pour essayer d'organiser un petit peu de commerce.
Avec ventes d'huile d'olive.
Voilà, avec des ventes d'huile d'olive, de dattes, des choses comme ça. Et puis de faire respecter surtout le droit international, parce qu'on constate, hélas, que Israël, en toute impunité, ne respecte pas le droit international, ne respecte pas les résolutions de l'ONU. Et là-dessus, on est obligé de se faire entendre pour dire stop, ça va trop loin.
Il y a eu d'ailleurs plusieurs manifestations devant des supermarchés, du boycott par rapport à...
Alors, effectivement, il y a plusieurs types de directions d'opérations qu'on mène. Mm-hmm. Il y a une opération qu'on a menée à l'initiative du 04, justement. C'est l'opération vente d'huile d'olive de Palestine. Donc, on a régulièrement des arrivées d'huile d'olive de Palestine dans le cadre du commerce équitable. Et on vend cette huile ou les dattes grâce à la coopérative andine qui s'occupe de commerce équitable. Ensuite, on a effectivement des manifestations aussi culturelles d'information avec des passages de films, des débats, des réceptions de missions qui viennent de Palestine ou de missions qu'on envoie en Palestine. Ensuite, on a aussi une action d'information du public sur l'illégalité de la vente des produits israéliens qui sont produits dans les colonies, parce que Israël fabrique dans les colonies. Or, il est reconnu dans le droit international qu'ils n'ont pas le droit de vendre ces produits sur le marché international. Donc on essaie de faire respecter ces droits des Palestiniens par l'intermédiaire de l'opération BDS, c'est-à-dire boycott, désinvestissement, et puis le troisième, sanctions.
Ouais. Et alors, il y a une liste qui existe des produits
Oui, c'est assez difficile à suivre. Mm-hmm. Disons qu'on cible sur certains produits quand on est sûr qu'ils sont fabriqués dans les colonies à l'intérieur de la Cisjordanie. Et on cible sur un certain nombre de produits. Actuellement, on est en train de cibler sur les banques, parce qu'il y a beaucoup de banques françaises qui ont des liens avec Israël à l'intérieur des colonies. Donc on essaie de faire une opération d'information là-dessus. Et je voudrais noter quelque chose pendant que j'y suis, puisque j'ai la parole. Il y a aujourd'hui un soutien d'un mouvement important qui s'appelle Amnesty International. Mm-hmm. On connaît bien Amnesty International sur Fréquence Mistral, puisqu'il y a une émission chaque mois,
sur les droits humains.
Voilà, sur les droits humains. Et aujourd'hui, on constate que sur le site de Amnesty International, dans les campagnes, il y a une campagne sur les 50 années d'occupation de la Cisjordanie et de la colonisation, puisque ça date de 1967, l'introduction de la colonisation dans la Cisjordanie. Et Amnesty International prône le boycott, ce qui ne faisait pas auparavant. Mmh. Donc on a ici une avancée importante du mouvement Amnesty International, et on peut retrouver ça sur son site. Je crois que c'est dans les campagnes, dans l'onglet campagne.
D'Amnesty International.
Il y a un document très très intéressant sur ce travail. Et d'ailleurs, Amnesty International lance la pétition pour demander au gouvernement d'interdire les biens produits dans les colonies. Donc, bien entendu, on est très heureux de ce soutien. Voilà. Et je voudrais parler de l'opération replantation d'oliviers, puisque nous, dans le 04, on a soutenu plusieurs projets, donc le projet huile d'olive. On a soutenu la réfection de bassins d'eau, d'irrigation. On a soutenu des opérations de financement de moutons dans certains villages. On a soutenu également la réfection de maisons dans certains villages palestiniens, au niveau des Bédouins, qui étaient systématiquement des maisons qui sont systématiquement détruites par l'armée d'Israël. Et donc, on essaie de financer, de contribuer un petit peu à rénover certaines maisons pour que les Bédouins puissent rester sur place. Et puis aujourd'hui, on finance aussi cette opération replantation d'un million d'oliviers, puisque la colonisation et puis la construction du mur ont entraîné une destruction massive des vergers palestiniens. Et depuis 2 ou 3 ans, il y a une opération internationale de replantation d'oliviers, d'un million d'oliviers. Et donc, on y contribue à notre petite échelle. Et avec ce livre, il faut savoir que lorsque on donne 5 euros, eh bien, on arrive à replanter un arbre.
Ah, donc, c'est déjà une belle satisfaction.
Voilà, pour chaque livre vendu de 1851 Marianne Démé, eh bien, le lecteur peut savoir qu'il contribue à replanter un olivier en Palestine.
On va peut-être...
On passe la dernière chanson de...
Oui, avec Zebda, Une vie de moins. C'est une chanson que vous avez choisie aussi.
Voilà, oui, parce que le groupe Zebda a créé cette chanson justement en honneur des Gazaouis pendant les guerres subies par Gaza, pendant les agressions en 2009 et en 2014. Et donc, il parle des enfants qui sont prisonniers à l'intérieur de la bande de Gaza.
Donc, on va se quitter avec cette chanson.
Voilà.
Et puis, on rappelle donc qu'on peut retrouver votre livre et vous le commander sur Internet en allant sur danielberthet.com. Berthet, oui. B-E-R-T-H-E-T. Et puis, on mettra cette émission en ligne dès ce soir. Et puis, j'espère que nombreux seront les auditeurs qui feront appel à ce livre 1851, Marianne Démé. Daniel Berthet, merci.
Eh bien, merci Odile et merci à Fréquence Mistral de m'avoir reçu.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.
Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire. Pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour où la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à ton menti d'une une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme mille autres, mille après mille avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre.